Bienvenue à cette table ronde de fin de journée où nous allons parler ensemble du roman d'aventure, enfin de la fantaisie comme roman d'aventure et du plaisir qu'elle peut procurer. J'ai le plaisir donc d'accueillir quatre auteurs que je vais vous présenter plus ou moins dans le sens dans lequel ils se sont assis, en commençant donc par Régis Godin, tout là-bas, qui enseigne les arts plastiques à l'ESP de Picardie et puis qui est l'auteur d'une heptalogie, donc un cycle de 7 romans remarqués et remarquables, hein, Le sang des 7 rois, dont les 7 volumes, vous l'aurez compris, sont parus chez La Talente entre 2013 et 2016. Hein, donc très rapidement, et là, voilà, c'est le moment de rattraper ce cycle qui est désormais complet. Adrien Thomas a fait son entrée en 2012 dans le milieu de la fantaisie française, et puis c'était d'emblée une entrée fracassante puisqu'il a décroché le prix Imaginal pour ce qui était son premier roman, La Geste du Sixième Royaume, paru chez Mnemos. La Maison des Mages a suivi, puis Notre-Dame des Loups qui était un one-shot, depuis 2016 une nouvelle série, Le Royaume Rêvé, qui nous conte les aventures des clans des Marches du Gel, et le deuxième volume est arrivé là en toute première, en avant-première pour les Imaginales, donc toujours chez Mnemos. Aurélie Wellenstein, elle est coup de cœur des Imaginales 2017, donc vous allez beaucoup avoir le plaisir de la voir. Elle a publié plusieurs romans pour jeunes lecteurs, mais bon, pas trop petits quand même, hein, les adultes sont tout à fait les bienvenus, autour du rapport entre l'homme et l'animal, réel ou intérieur, notamment chez Scrinéo, Le Roi des Fauves, puis Les Loups Chantants. Et aujourd'hui, La Mort du Temps, chez Scrinéo toujours, s'éloigne un peu de cette thématique pour imaginer un séisme qui sème le chaos dans le temps. Et enfin, donc Scott Lynch est un de nos invités américains sur le festival, dont l'excellente série Les Salauds Gentilshommes n'est plus à présenter. Elle a commencé avec Les mensonges de Locke Lamora 2006-2007 pour la traduction, et donc pour l'instant 3 tomes sont publiés en France chez Bragelonne sur les 7 prévus, c'est ça. On m'a récemment décrit la fantasy, Stéphane Marsan, pour ne pas le citer, comme l'héritière directe du roman d'aventure. C'est quoi la fantasy pour vous? Il disait la fantasy, c'est l'aventure. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette idée, Régis Godin? Est-ce que vous avez l'impression d'écrire du roman d'aventure?
Oui. Bon, je vais développer un peu parce que ça va être compliqué. Oui, parfaitement.
Bon, bah c'est bien.
Parfaitement. C'est-à-dire que la fantaisie s'inscrit déjà d'une certaine manière dans un paysage, une géographie, avec un calendrier qui est en général assez chargé pour les héros, hein, qui sont quand même assez assez sollicités. Et on a quand même assez souvent dans le roman d'aventure traditionnel, beaucoup de déplacements, beaucoup de péripéties, beaucoup donc dans des territoires qui restent souvent à explorer quand on commence le roman. La fantaisie, il y a aussi une carte, il y a aussi un calendrier, il y a aussi des gens qui sont en mouvement, à qui va arriver en général pas mal de pépins. Et dans ce genre particulier, je pense qu'effectivement on se retrouve aussi bien un peu dans une filiation avec Jules Verne, avec des voyages qui vont avoir quelque chose d'extraordinaire. Et assez souvent, c'est un genre qui est relativement peu statique. Sur le plan dans lequel il y a de l'introspection, mais dans lequel l'action va prendre en général une part assez importante. C'est comme ça, en tout cas, moi, je vis la fantasy. J'ai envie, quand on m'emmène dans plusieurs voyages parallèles. C'est-à-dire qu'il y a un voyage dans un univers que je ne connais pas, qui va me surprendre, dans lequel je reconnais un certain nombre de règles, mais je reconnais aussi des écarts dans les règles. Donc ça, c'est un premier voyage littéraire dans lequel nous sommes invités. Et puis, il y a aussi un voyage géographique. J'ai envie de découvrir des paysages, j'ai envie de découvrir des lieux que je ne connais pas et dans lesquels on va me promener. Et en ce sens, hein, je pense que dans le roman d'aventure, le paysage, la géographie est un personnage à part entière. Hein. C'est parfois le paysage qui va devenir l'adversité, c'est le paysage qui va générer les systèmes politiques, c'est le paysage qui parfois va générer finalement le temps, puisqu'il y a beaucoup de déplacements. Et effectivement, vu sur ce point de vue, je pense qu'il y a effectivement une assez grande filiation entre le roman d'aventure qu'on pourrait trouver chez Alexandre Dumas, chez d'autres personnes, et puis finalement la fantasy.
Alors, vous n'hésitez pas à réagir les uns les autres à ce que, même si on est en fin de journée, mais voilà, sinon je vous attribue vos tours de parole. Hein. Donc, Adrien Thomas, c'est à vous. Est-ce que pour vous, donc aussi, la fantasy serait donc un peu le dernier refuge de cette catégorie du roman d'aventure qui autrement a disparu?
Alors, je pense pas qu'elle ait disparu. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'aventure, on peut la retrouver un peu partout, quel que soit le format, enfin la classification qu'on veut donner à un roman. On peut trouver beaucoup d'aventures dans un thriller, un polar, un roman contemporain sans problème.
Ça n'existe plus. Au 19e, c'était vraiment un genre, oui, le roman d'aventure. Et alors c'était les grands romans populaires, c'était des romans d'aventure.
C'est ça.
Et maintenant, effectivement,
Maintenant, il y en a un peu partout. J'ai l'impression que c'est un peu la condition sine qua non pour avoir l'impression d'accrocher le lecteur à son roman, en fait. Il faut qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression que maintenant, il y a une sorte de distinction entre les romans plus introspectifs, plus lents, plus tranquilles, plus descriptifs, et les romans d'aventure qui touchent aussi bien les littératures de l'imaginaire que toutes les autres, en fait. C'est essentiellement, oui, le thriller, les romans d'horreur, même... j'ai récemment lu Daniel Pennac, qui est difficilement associable à la fantasy, et pourtant c'est de l'aventure, il se passe plein de trucs. C'est quand même. Donc du coup, j'ai pas l'impression que la fantasy soit forcément l'héritière directe et surtout la seule héritière du roman d'aventure. J'ai plutôt l'impression que l'aventure c'était quelque chose qui était contenu dans un tout petit terrain et qui s'est répandu un peu partout, en fait, qui s'est disséminé dans toute la littérature et effectivement énormément dans la littérature de l'imaginaire.
Aurélie, est-ce que vous rejoignez cette impression-là? Alors vous écrivez quand même avec des quêtes justement dans du wilderness, dans des contrées sauvages. Je pense au loup chantant ici, qui rappelle des traditions du roman d'aventure.
En fait, moi je pense que mon inspiration est peut-être plus récente et moderne, c'est surtout les jeux vidéo. J'ai une trajectoire. Souvent dans mes romans, je dessine des trajectoires qui sont comme celles des personnages de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'ils partent d'un point A et ils vont vers une destination et avec cette format de quête, ils vont rencontrer des créatures, ils vont avoir des affrontements qui vont les faire progresser psychologiquement et il y aura beaucoup de combats. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'action, les combats. Pour préparer la conférence, là, j'ai regardé un peu ce que c'était le roman d'aventure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée sur Wikipédia, j'ai regardé la définition, et en fait, je l'ai trouvée assez peu flatteuse. Donc, il y avait le côté aventure, mais aussi, il disait que c'était des héros, des garçons, des jeunes garçons, et qui avaient l'affrontement du bien contre du mal. Donc, finalement, quelque chose d'un peu manichéen, c'était ce que disait la définition de Wikipédia. Donc là, je trouve qu'on s'en éloigne avec nos récits modernes qui sont peut-être plus gris. En tout cas, moi, dans mes textes, c'est vrai que je cherche vraiment pas le manichéisme, le combat du bien contre du mal. J'ai des personnages qui, au contraire, sont habités aussi par une part d'ombre, et c'est ça que j'aime bien travailler.
Oui, tout à fait. Mais alors là, pour le coup, autant j'ai le plus grand respect pour Wikipédia, pour le travail qui y est mené, autant là, j'ai l'impression que c'est peut-être... Parce que c'est aussi des clichés qu'on entend à propos de la fantasy. Quand on essaie de définir très rapidement la fantasy, on va justement tomber sur ces histoires de... Ce sont des jeunes garçons qui partent dans des quêtes et c'est la lutte contre le bien et le mal. On a fait une mémorable table ronde sur ce sujet l'an dernier. voilà. Donc, j'ai l'impression. Alors là, pour le coup, la filiation serait directe. Si on définit comme ça le roman d'aventure et qu'on définit comme ça la fantasy, on se retrouve avec deux clichés, mais qui sont très proches les uns des autres.
Ouais, c'est vrai que nous, on les démonte là, les clichés.
Ouais. C'est ça, clairement. Scott Lynch, est-ce que vous vous inscrivez dans une... est-ce que vous avez l'impression que vous écrivez des romans d'aventure et du coup, bah, pour vous, qu'est-ce que c'est un roman d'aventure?
Excusez-moi, s'il vous plaît. Ma français est terrible, très terrible. Tell them he's an idiot who doesn't even know the French word for translator.
What?
I can't even say my translator will be speaking.
Oh, okay. Okay. Je suis même pas capable de dire que c'est ma traductrice qui va me traduire.
Je suis désolé.
You're welcome.
Pardon, je suis un Américain. My French is survival French. I have the vocabulary of a toddler.
Alors, je ne suis capable que de survivre en français, pas de vivre, et j'ai à peu près le français d'un enfant de 3 ans, on va dire.
And I have to trust that's what you told them. yes. There's an eminent literary theorist, a brilliant philosopher, a man of the world, Stephen Bruce, who has what he calls the cool shit theory of literature. In that a novel to him is a support structure for whatever flavor and whatever quantity of cool shit the author wishes to indulge in whilst pretending to do other things. And I'm interested in the cool shit and the pretending to do other things. I would say unabashedly, and if I need to...
Go ahead.
I'm sorry. She will... I'm going to talk for about 10 minutes and she'll summarize in about 3 sentences.
Yes, you
it
will.
Leave me wondering who... Okay. Yes, I mean, I unabashedly write fantasy novels. I believe I believe in I believe in the multi-level literary experience. I believe that books can be read on multiple levels, stories can be read on multiple levels, and what is one person's extremely straightforward adventure story can be someone else's deep philosophical journey. Hello, Brad. Ideally, in the crafting of a piece of literature, the creation of such will be seamless. I mean, to some people, Star Wars, although not a piece of literature, a piece of cinema, is a deep, introspective, philosophical piece of work that can be endlessly dissected. To other people, it's just cheap, fast entertainment in which lots of things explode. And I think the ideal is to have all of this in the same work so that every reader, every participant can... take from it whatever level of understanding or comprehension they wish to apply.
Yeah, we're going to stop there, though.
Okay.
Sorry, and you can go on afterwards, but...
Just keep talking to the wall. No one will pay attention to you, Scott. It's okay.
Donc voilà, et je dois faire confiance à ma traductrice pour dire effectivement ce que je viens de dire. Donc, je voudrais mentionner un grand théoricien, Stephen Bruce, qui a la théorie de la littérature des trucs qui déchirent. C'est-à-dire que pour lui, la littérature, c'est un support pour des trucs qui déchirent. Et en fait, les gens, ils font ça et ils disent qu'ils font autre chose. Moi, personnellement, j'ai l'impression d'écrire de la fantasy, mais je crois en la littérature à multiniveaux. C'est-à-dire que pour certains, un livre va parler d'une histoire, d'un voyage, mais très simple, pour aller d'un point A à un point B. Et pour d'autres, ce sera une profonde réflexion philosophique. Pour prendre un autre exemple, alors cette fois-ci pas littéraire, mais de cinéma, Star Wars, pour certains, c'est très profond, c'est de la philosophie, c'est une vraie introspection. Pour d'autres, c'est juste des films pas chers où ça va vite et ça explose dans tous les sens. Et moi, justement, j'essaye de faire des romans où chacun peut prendre ce qu'il veut, où il y a plusieurs niveaux et chacun en retire ce qu'il souhaite.
You can go on. Okay. I have one more thing I will add, and then I will relinquish the microphone. I'm sorry. In terms of adventure, however, it's not just the adventure that the characters are having on the page. It's also the evocation of atmosphere and the evocation of possibility in the mind of the reader. It is the scene setting, the rendition of the cities, the landscapes, the people, the languages, the customs. That sense of simply that sense of possibility. When I was a teenager, I fell very madly in love with William Gibson's Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, the Cyberspace Trilogy, because of that very intense sense of place that is very, very descriptive evocation of his future world. And I found myself possessed, I don't know, maybe possibly there's a word for it in French, there's not one in English, nostalgia strange as it sounds, a sense of nostalgia for a place that had never existed that was actually in the future. And I found myself very profoundly moved by that. I actually cried while reading Count Zero, which seems incredibly childish. You have to be young to read a dystopian disaster novel of a fucked up world and say, wow, that's really romantic and exciting, and I would like to visit that place. But that sensation of nostalgia for a place that never existed is what I try to capture when I create places like Camor. What I think a fantasist should a fabulist should strive for, that fictional sense of place, is part of the adventure.
Thank you. Alors, je voudrais juste ajouter un petit détail, après, promis, je rends le micro. Donc, pour moi, l'aventure, ce n'est pas seulement les aventures que vivent les personnages, mais c'est également une atmosphère. Le rendu qu'on peut avoir des villes, des paysages, des costumes que les gens portent. Quand j'étais adolescent, j'ai adoré les livres de William Gibson, parce que vraiment, il avait une façon de décrire les paysages qui était intense. Il décrivait un monde donc qui n'existe pas, un monde à venir. Et j'ai ressenti une nostalgie en le lisant. Et je trouvais ça quand même dingue, une nostalgie pour un endroit qui n'existe pas et qui normalement est dans l'avenir. Et vraiment, mais j'en ai été émue au point de pleurer en lisant ces romans. Et je pense qu'il faut vraiment être jeune pour être capable de lire une dystopie où tout part en vrille et se dire « Waouh, c'est trop romantique, j'aurais trop aimé y vivre !» Non, il faut vraiment être jeune pour ça. Et je pense que justement, créer cette nostalgie d'un lieu qui n'existe pas, c'est ce que j'ai essayé de faire en créant Camor. Et je pense que c'est ce qu'on devrait tous essayer de faire et que ça fait partie de l'aventure.
Je suis absolument d'accord avec ça, et c'est une très belle, une superbe définition qui de ce que de l'ambition de la fantasy. Est-ce que dit comme ça, ça vous parle plus la nostalgie d'un monde qui ne peut pas exister et que, enfin, qui n'a pas existé comme ça, et que vous vous efforcez de recréer dans la série du Royaume rêvé, ça y ressemble.
Moi, c'est clairement ça. Moi, j'ai commencé à écrire pour justement parce que honnêtement, je me sentais pas très bien dans le monde dans lequel je vivais. C'était l'occasion d'en trouver un autre plus intéressant, en fait. Moi, clairement, je me suis plongé là-dedans dans l'envie d'évoquer un monde qui était intérieur, de le faire ressortir et d'être à l'intérieur et de me sentir bien à l'intérieur, en fait. C'est une sorte de fuite à l'intérieur que j'ai finalement réussi à refaire sortir et qui finalement est devenu une sorte de grande toile que je pouvais peindre et que je pouvais montrer au reste du monde plutôt que le garder pour moi tout seul. Et effectivement, je pensais que... la nostalgie, c'est exactement ça, en fait. C'est le sentiment qu'on a, c'est... c'était bien, ah, mais en fait, j'ai jamais été. Mais effectivement, on se dit, ah, c'était quand même vachement bien. Mais on a toujours un petit moment où on se dit, ouais, mais enfin, t'y es jamais allé, en fait. Et oui, je suis vraiment d'accord avec cette description-là, ouais.
Et ça rejoint ce que Régis Godin disait sur l'exploration, en fait. Et justement, on n'a plus rien à explorer sur notre planète et que le futur, enfin l'exploration des planètes extérieures nous est un peu fermée, il nous resterait plus qu'à partir comme ça dans ces créations imaginaires pour y vivre les aventures qui ne sont plus possible. Voilà, je poursuis sur cette idée de nostalgie.
Je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'essaie d'imaginer un roman que je pourrais écrire maintenant, par exemple, de quelqu'un sans aucun intérêt qui traverse la Beauce, par exemple. Bon, la Beauce, c'est une région très plate, sur laquelle il n'y a que des champs de blé. C'est amusant quand on traverse l'été, en fin d'été, parce que tout a été moissonné et il n'y a plus qu'une espèce de petits cheveux comme ça qui se baladent jaunes sur des millions d'hectares. Je ne sais pas quelle histoire j'arriverai à écrire avec ça. La fantaisie, on a besoin... Alors, c'est peut-être que ce n'est pas intéressant, mais ce serait peut-être de littérature blanche. On serait peut-être plus dans une autre approche, plus introspective. J'ai rien contre la littérature blanche, j'en lis beaucoup. Mais moi, quand je suis dans la fantaisie, j'ai besoin d'un monde superlatif. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un monde au carré, au carré, parce que finalement, à un moment donné, Jules Verne, quand il écrivait, je reviens sur Jules Verne, hein, mais quand il écrivait au 19e siècle, hein, il nous décrivait des mondes qu'on ne connaissait pas, l'Afrique, autour de la Lune, tout ça n'est plus très exotique. Il nous décrivait le centre de la Terre. On sait qu'on va y cuire un peu maintenant. Bon, on sait que la température augmente. Donc, il nous décrivait finalement les paysages superlatifs dont on avait besoin au XIXe siècle. Aujourd'hui, on a un monde dans lequel on sait maintenant en gros quelle atmosphère il va y avoir autour des planètes, autour de Jupiter. On apprend des choses qui nous font rêver, mais à un moment donné, on a quand même faim. Hein, on a quand même faim de choses qu'on ne pourra jamais vivre, qu'on ne connaîtra pas. Et ce qui nous intéresse, c'est les montagnes plus grandes que les plus grandes montagnes, les océans plus profonds que les océans plus profonds encore que ceux qui peuvent exister. Et ce qui nous fait rêver, ce sont les océans qui me font rêver, sont ceux qui font 100 km de profondeur sur les lunes glacées. Qu'on soit dans la science-fiction, qu'on soit dans la fantasy, parce que ça reste du roman d'aventure, on a besoin de poser littérairement nos pieds dans des univers, soit qui ne peuvent pas exister parce que ce sont des mondes superlatifs, soit parce qu'ils sont superlatifs même s'ils existent et qu'ils sont ailleurs, plus tard, plus loin, de découvrir finalement des mondes qui nous sont probablement à jamais inaccessibles, au moins à l'échelle de nos vies à nous. Et ce qui fait au XIXe siècle aventure, c'est quand même essentiellement le fait de se mesurer à l'incommensurable, quelque chose qu'on ne peut pas voir. Ce qu'on cherche peut-être dans les littératures de l'imaginaire, c'est retrouver un petit peu ces mondes qui sont inconnus, qui sont extraordinaires, dans lesquels on pourra voyager. Et ça revient un petit peu à ce qui était dit tout à l'heure par le collègue, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation dans laquelle ce qui nous fait rêver, c'est ce qu'on ne pourra pas vivre. Et cette nostalgie, c'est peut-être plus qu'une nostalgie d'un monde qui existera plus tard, c'est une nostalgie d'un monde impossible qui nous permet justement de rentrer un petit peu dans dans un imaginaire intéressant. Et le fait même que cet univers soit impossible nous fait peut-être rentrer dans une dimension d'aventure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à un moment donné se déplacer dans un monde qui est inconnu, et c'est peut-être ça qui génère justement le côté aventure.
Voilà. Aurélie, vous partez plutôt de contexte, enfin de lieux qui évoquent des choses réelles, le Grand Nord, ou alors la traversée de la France qui se remodèle dans la fin du temps.
La mort du temps.
Excusez-moi. La mort du temps. Est-ce que, du coup, il faut les personnages qui vont y intervenir, qui vont transformer ces paysages au départ réels en quelque chose de où peut arriver l'aventure?
Bah, je me demande si en fait ça vient pas de moi. C'est-à-dire que j'ai grandi à Paris, sur les trottoirs de la ville, dans la verticalité de la ville. J'ai toujours voulu avoir des animaux, j'en ai pas eu. Mes parents m'ont dit non, tu t'occuperas pas du chien, alors qu'en fait je l'aurais sûrement fait. Enfin bref, je pense que j'ai eu une frustration. Des grands espaces, des animaux. Et c'est peut-être ça aussi que j'incarne dans mes romans. Et finalement, peut-être que j'écris pour les jeunes citadins frustrés de la présence animale et des grands espaces. Donc en fait, mes romans mettent en scène une nature très sauvage. Des bois profonds, sombres, où on fait des rencontres étranges. C'est des romans assez oniriques aussi. Je pense au Loup chantant et au Roi des fauves, en l'occurrence. Donc voilà, je pense qu'ils sont nés de ma frustration de petite Parisienne qui aurait bien voulu partir en exploration dans le Grand Nord et dans des bois et aller à la rencontre des loups. Par ailleurs, je pense que la fantasy réactive quelque chose d'ancien. C'est-à-dire que dans les romans du 19e siècle, on avait, la littérature fantastique qui a commencé à naître et réactiver à travers le loup-garou, à travers ces créatures fantastiques, les peurs anciennes du loup au fond des bois. Donc peut-être que la fantasy, le monstre, les créatures de ces romans-là réactivent des peurs anciennes. C'est-à-dire que nous, les citadins, on est bien protégés dans nos villes, on a plus contact là avec cette peur archaïque, et à travers les romans, on va la retrouver en fait.
Tout à fait. C'est en tout cas clairement l'effet que produit votre roman, ou celui d'Adrien, qui évoque pas mal le même type de paysage, le plus récent, où effectivement on est aussi dans des solitudes glacées, où on est aussi face à un surgissement des monstres. Et vraiment un archaïsme revendiqué avec les clans, les vassaux, etc. Une société vraiment féodale qui est construite.
Oui, la sortie des terres glaciales, du froid, du givre, ça amène à l'isolement, en fait. Ça rapporte à l'isolement qui est un peu l'occasion de se lancer dans l'aventure parce que toutes les opportunités sont là et tous les monstres et les obstacles sont là aussi. Le froid, l'inconnu, les bêtes sauvages qui peuvent être des fois pas sympas. C'est faux, hein, les bêtes c'est toujours sympa. Mais tous ces éléments-là sont des prérequis idéaux pour l'aventure, en fait, pour s'en servir dans l'aventure. C'est-à-dire que quand on me met devant une grande étendue pleine de neige avec des montagnes au bout, je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. En fait, je cherche pas beaucoup plus loin. Je dis, oh, viens, on va là. Je suis allé en Islande il y a pas très longtemps et c'était très difficile de me retenir parce que dès que je voyais un truc, un paysage, un iceberg, quelque chose, je voulais aller le voir parce que c'était. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve que les paysages du Grand Nord, les paysages enneigés, les paysages de grandes forêts sombres ou les paysages au contraire de grandes plaines enneigées isolées, ça a quelque chose d'attirant pour l'aventure, une sorte d'aimant à aventure en fait. C'est instinctivement, j'ai imaginé 3-4 idées de romans rien qu'en un voyage en Islande par exemple.
Alors, Scott Lynch, a priori, vous partez, vous, au contraire, d'une ville, Camor, qui est et au contraire très labyrinthique, très peuplée. Donc, c'est pas le même type de point de départ pour l'aventure que ces grands paysages de ces immensités désolées que nous décrivaient les précédentes interventions.
Well, I sympathize with the ideas about Iceland. I was in Iceland with my wife in November, and it is impossible to visit Iceland and not feel like writing many fantasy novels about it. I mean, it is a very, I mean, it's perhaps a bit rude to treat someone else's country as, you know, so quaint and inspirational, but it has such a profound effect upon the visitor. I grew up. In a suburb of a major American city, so I didn't have a great deal of exposure to a deep city landscape, and I had intermittent exposure to relatively deep wilderness, the northern woods of Minnesota and southern Canada, and the very very bitter winters, bitter winters of my homeland. So I grew up appreciating it, but for whatever reason, when the time came to for me to finally write a novel, for me to quit messing around and write a novel, I was just seized with the notion of writing the city, at least to start out with, as much as I was with writing the lives of the people within it. And there was a direction that the lives of Loch, I mean, the entire series might have gone in a very different direction if I had chosen to focus on the city and simply show the passing of lives of different generations within the city. I was very inspired. My first fantasist that I read at length, even before Tolkien, was Ray Feist, Midkemia stories, and they were generational in that, you know, one set of heroes would have their adventure and then die of old age, not always gloriously, not always heroically, and another generation would pick them up. And I found that very compelling. I was also interested in the Ed McBain approach. I'm not sure if Ed McBain is very well known over here. Ed McBain. Sounds like a Simpsons character, but is not. He's a crime novelist who had a fictionalized version of New York called Isola. And what he wrote was not a story about a heroic detective. It was a story in which the detective room was the character. And the individual detectives would come and go and take vacations and die and get married and leave the series. But the story was always the story of the detective department. And I thought that was a really interesting approach that I might want to try. And what happened was the characters in the book became too interesting to stay with the city. Locke and Jean sort of took over and drove me elsewhere. So I'm still interested in that beautiful theory. God knows when the hell I'm going to get back to doing it. it's turned a little bit into more the adventures of Locke and John than the adventures of the cities they travel through. Although the cities are still very important to me.
Non, it's okay. Alors je compatis complètement avec l'idée de l'Islande qui donne très très envie d'écrire, parce que j'y suis allée en novembre avec ma femme et effectivement ça m'a beaucoup inspirée. Alors ça fait peut-être un peu mal poli de dire du pays de quelqu'un d'autre que c'est juste une source d'inspiration, mais alors franchement ça fait un effet fou ce pays et vraiment j'ai adoré, donc voilà, je compatis. Personnellement, en fait, j'ai grandi en banlieue d'une grande ville, mais j'ai pas vraiment été exposée à la ville et ses profondeurs en elle-même. J'ai plutôt été exposée justement aux grandes forêts du Minnesota ou les étendues sauvages du Canada. J'ai connu les hivers très rudes et j'ai beaucoup aimé ça. Mais du coup, quand j'ai arrêté de faire l'idiot et que je me suis mis à réellement écrire, j'ai plutôt eu envie de parler d'une ville, de partir de la ville et de parler des gens qui y habitaient également. Alors à vrai dire, la série aurait pu être complètement différente si j'avais décidé de vraiment me concentrer uniquement sur la ville et de parler des générations qui y vivaient les unes après les autres. J'ai été extrêmement influencée par un auteur bien avant encore de lire Tolkien. J'ai lu Feist. Voilà. Qui lui racontait des histoires justement de générations qui se succédaient. Donc les générations mouraient de vieillage, pas toujours de façon très glorieuse, et leur succédait la génération suivante. Et j'aimais beaucoup ça. J'avais également un grand intérêt pour un auteur qui s'appelle McBain. Alors on dirait un nom de personnage des Simpsons, mais ce n'est pas le cas, c'est un auteur très sérieux. Qui écrivait des histoires de détectives, d'inspecteurs, dans une ville qui était basée sur New York, mais qui s'appelait Isola. Mais plutôt que de parler d'enquêteurs en particulier, c'était des enquêteurs qui se succédaient au poste de police, en fait. C'était vraiment la vie du commissariat plutôt qui était intéressante. Et donc, on suivait un enquêteur qui ensuite mourait et on en suivait un autre. Et j'aimais beaucoup cette approche et je l'avais bien envisagé. Mais au final, quand j'ai commencé à écrire, les personnages sont devenus beaucoup trop intéressants et je me suis trop intéressée à Locke et à Jean. Et du coup, ils m'ont emmenée ailleurs plutôt que de suivre cette idée. Donc j'aime toujours beaucoup cette théorie de s'accrocher à un endroit et d'y voir les générations qui s'y succèdent. Mais là, pour cette fois-ci, c'est mort parce que j'ai préféré suivre Locke et Jean plutôt que la ville. Mais qui sait quand je l'écrirai l'autre roman.
Mais c'est aussi une piste. Hein, un bon roman d'aventure, ce qui le rend si agréable à lire ou à écrire, c'est aussi les personnages, voilà. Et l'aventure, c'est cette idée d'un héroïsme individuel, éventuellement d'un groupe de quêteurs, mais donc du coup, voilà, l'accent mis sur les personnages. Est-ce que c'est une piste pour un plaisir de lire ou d'écrire d'ailleurs?
Ouais, les personnages, c'est vraiment, enfin, c'est central dans le roman d'aventure. Il faut que les personnages soient accessible à l'aventure d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils soient réceptifs à l'idée d'aventure, à l'idée de sortir de leur chambre pour aller vivre une aventure, à l'image de Bilbo le Hobbit qui n'avait pas du tout envie de sortir de sa maison pour aller la vivre et qu'on a un peu foutu d'or à coup de pied quand même pour qu'il le fasse. Et je trouve que c'est une approche intéressante, c'est-à-dire qu'on a traditionnellement en fantasy, on a souvent tendance à considérer que l'aventure vous tombe dessus. Très souvent, on ne choisit pas l'aventure quand elle arrive. Généralement, c'est quelqu'un d'autre qui nous précipite dedans, qui soit parce que c'est un ami qui a des problèmes, soit une prophétie ou je ne sais quel dieu ou quelqu'un qui décide soudainement que tiens, vas-y, va sauver le monde, va détruire l'anneau unique, va tuer le dragon ou sauver la princesse. Et je trouve intéressant, c'est qu'on a fini par s'éloigner plus ou moins de ce fonctionnement-là. Alors c'est toujours intéressant d'avoir un roman qui commence par un gros tas d'emmerdes et tout le monde essaie de s'en sortir. Mais c'est aussi intéressant d'avoir l'aspect inverse où en gros l'aventure est décidée par le personnage en fait. C'est le personnage qui décide aujourd'hui je vais me lancer dans quelque chose. C'est sa volonté qui décide et c'est pas le destin et c'est pas ceux d'à côté. C'est le personnage qui décide je vais me lancer dans une aventure, je me donne un objectif, je me donne un but, ça va pas être simple, il va falloir que je tape sur des gens, sur des monstres, que je noue des alliances, que j'apprenne la magie, je sais pas, mais c'est moi qui vais décider de le faire. Enfin, c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à écrire le Royaume Rêvé et la suite qui vient de sortir, où en gros c'est une jeune reine qui commence à en avoir ras-le-bol que tous les clans autour d'elle se tapent dessus pour des raisons d'honneur, de vieilles querelles ancestrales qui n'ont plus lieu d'être, et qui décide qu'elle va rallier tout le monde à sa bannière, qu'elle va créer son pays, et que si les autres sont pas contents, bah tant pis pour eux. Et elle va rallier un maximum de gens qui partagent sa vision, de jeunes personnes qui partagent sa vision, et son objectif c'est de créer sa propre aventure plutôt que la subir, en fait, en étant simplement une des reines parmi le chaos ambiant qui règne dans sa région.
Moi, je suis complètement sur des mouvements inverses, un peu sur ce que tu décrivais. Moi, mes personnages, ils sont vraiment agis par le destin. C'est quelque chose qui va leur tomber dessus et il va falloir qu'ils fassent avec et qu'ils se battent. Dans Les Loups Chantants, ça commence par une maladie. Le Roi des Fauves, c'est une malédiction. Dans Le Mort du Temps, c'est un séisme qui commence au début du roman. Et effectivement, je trouve que ça reflète un peu aussi nos vies, quoi. Moi, je suis assez... Enfin, je dis toujours shit happens, quoi. Il y a un truc qui se passe et il faut bien lutter, faire face, quoi. Donc, alors effectivement, du coup, on peut dire que oui, tes personnages, ils sont passifs parce que ça, il leur arrive quelque chose et ils doivent agir en réaction. C'est pas des aventuriers, c'est plus des gens qui sont dans la malédiction, qui sont maudits. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, en fait. Mais c'est peut-être pas, voilà, moi, je suis peut-être pas une aventurière non plus. Par contre, je pense que je suis assez hantée par des choses et par mes histoires. Et voilà, c'est vraiment sur des éléments extérieurs qui vont tomber sur le personnage et l'amener à réagir.
C'est la structure canonique de ce qu'on appelle le voyage du héros dans la mythologie comparée. Et c'est vraiment comme ça que ça démarre. Mm. C'est un personnage qui est tiré de son monde, de son confort, pour être effectivement jeté et devoir faire le pas, pas du tout évident, vers un autre monde qui va l'exposer à des dangers et à de la gloire. Mm. C'est quelque chose...
C'est toujours la rencontre entre un personnage et une situation. Mmh. Et dans la rencontre entre un personnage et une situation, il y a trois problèmes. Hein. Il y a la rencontre, il y a le personnage et la situation. Et effectivement, en fonction de la situation, eh bien, c'est une situation qui va être voulue, qui va être subie. Et l'aventure, ça ne veut pas dire héroïsme non plus. Il peut y avoir effectivement des héros qui ne vivent pas d'aventure, mais c'est plus rare. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas des héros et qui vont être poussés dans l'aventure par le biais des choses. Ça peut être, comme tu disais, un naufrage, un problème, un naufrage personnel. Et c'est ça qui crée la tension. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une rencontre entre un personnage et une situation, on attend quand même dans le roman d'aventure que ça fasse une tension et que cette tension soit entretenue. Et la difficulté quand on est en train de décrire un roman d'aventure, c'est de maintenir cette tension et cette attention, pour avoir l'attention du spectateur, et de faire en sorte que chaque chapitre fasse avancer l'histoire. On peut imaginer des littératures dans lesquelles les chapitres ne font pas avancer l'histoire, mais permettent d'approfondir la connaissance d'un personnage, permettent de faire... Par contre, dans le roman d'aventure, c'est proscrit. C'est-à-dire que quand le lecteur rentre dans nos livres, le Son des Sept Rois ou les vôtres, à un moment donné, ils vont rentrer dans une histoire, ils attendent quand même qu'au détour de chaque page, ils aient matière à émotion. Voilà. C'est une littérature qui est quand même très émotionnelle, dans laquelle on doit découvrir des aspects du personnage, dans laquelle on doit être surpris par l'action, dans laquelle on doit découvrir des paysages inattendus. Cette mise en tension peut aussi peut-être définir le rapport qu'on aura à cette littérature d'aventure. Voilà.
This is my nightmare. But I knew it before coming. It's okay.
Alors, pour le coup, Locke Lamora est un héros idéal pour un roman d'aventure. Enfin, il a vraiment tout pour devenir, enfin, pour que des choses lui arrivent. Éventuellement. Pour revenir à la théorie des trucs qui déchirent, il a le bon profil pour ce genre de choses. Est-ce que vous aviez déjà prévu tout ce qui allait lui arriver? Est-ce que vous avez un plan pour l'évolution de ce personnage et de ce qui l'entoure?
I work to a very strict and detailed outline, which Locke fucks up every time. I have a the little bastard I'm most comfortable because laying out some of these, laying out the setting out the elements of the narrative, the elements of the theme, so that they sort of reflect the intricacies of the schemes, the scams, the cons, the heist, etc. Typically requires that I work to a fairly detailed script outline plan. And what happens is usually about a third of the way into that incredibly detailed script outline or plan, it is not so much that the characters take over. That is, I'm not going to force you to translate anthropomorphization. I'm not that much of a bastard. It's not so much that the characters spring to life. It's that after you, as an author, after you've spent a little bit of time with them, options that you previously did not realize were available suddenly make themselves obvious. And so my stories tend to divert a little bit in the middle. And the trick is always to bring them back to the same place that I wanted to. And mostly I've done that, mostly. There was one major addition at the end of my third book that was sort of unplanned, but once it happened, I couldn't undo it. Locke does have many ideal qualities for an adventuring hero. He is extremely bold, extremely foolish. He has very good friends who catch him when he falls. There's a term that my wife uses, also a novelist, Elizabeth Baer. The character who runs toward the sound of gunfire. Which is very useful for kicking off a story, because ordinary people, sensible people, when they hear gunfire, they say, holy shit, let's get away from that. That doesn't make for a very good story most of the time. You need a character who will hear gunfire on the page and say, oh boy, trouble, that sounds interesting. I'd like to go and stick my head into that. It's the character who chooses a fate rather than having one forced upon him. There's a bit of the authorial thumb on the scale, because you can make a character however you want. It's not like you have to go out into nature and find one. You can just conjure one on the page. So you do ideally want.
Can you stop?
I'm sorry.
Yes, you sorry. Can go ahead again after.
No.
Remember where you're at.
Sorry.
And okay.
Donc effectivement, je pars d'un plan extrêmement détaillé et Locke, à chaque fois, il fout tout en l'air. Franchement, c'est un enfoiré parce que je prépare ça super bien. Parce que je suis un peu obligée, parce qu'avec toutes les intrigues qu'ils font, enfin comme ils essayent de piéger les gens, tout ça, j'ai pas le choix, il me faut quelque chose d'assez détaillé. Et quand j'arrive à peu près au tiers de ce plan très détaillé, alors je vais pas dire que le personnage prend les initiatives ou qu'il devient vivant ou quoi, mais quand on passe suffisamment de temps avec des personnages, certaines options deviennent évidentes. Et du coup, le milieu, en général, ça change un peu de ce que j'avais prévu. Mais la plupart du temps, j'arrive à retourner, d'ici la fin du roman, j'arrive à retomber sur mes pieds. Sauf pour le troisième roman, j'ai pas réussi. Mais bon, c'est comme ça, je peux pas le défaire. Mais effectivement, Locke est un personnage qui a tous les éléments pour faire un bon héros d'aventure. Il est complètement fou, enfin, il se rend pas bien compte du danger, on va dire. Il est très courageux, il a beaucoup d'amis qui, s'il tombe, viendront le rattraper. Et il y a une expression qu'utilise ma femme, qui est également romancière, Elizabeth Baer, qui dit que c'est le genre de personnage qui, s'il entend des coups de feu, il va y aller tête baissée. Alors qu'en général, les gens, quand ils entendent des coups de feu, ils fuient, en fait. Enfin, les gens normaux, ils fuient. Mais bizarrement, ça fait pas des super histoires. Donc, c'est plus intéressant d'avoir un personnage qui te dit « Oh, trop cool, des coups de feu, je vais aller voir ce qui se passe !» Mais lui, c'est un choix, comme on parlait tout à l'heure de savoir si le personnage choisissait sa destinée. Là, lui, c'est un choix d'aller chercher les ennuis. Et techniquement, les personnages, on les choisit, hein, on n'a pas besoin, enfin, on les fait nous-mêmes, donc on n'a pas besoin d'aller les trouver dans la nature, donc on en fait un peu ce qu'on veut.
Sorry. I'll try to make this very quick. Only 5 or 10 minutes. So a character with the ego to get into trouble and the skills to mostly get out. Mostly. I think you... For me, you know, I don't enjoy creating plaster saints. I don't enjoy creating artificially perfect human beings. I like to write about characters that are extraordinary, but also they require human foibles and weaknesses. because I want the reader to be able to recognize some humanity, even in the midst of the adventure and the magic. I think that if you ground the fantastic with a little bit of psychological realism or physical realism, you know, ironically, it enhances the sense of the fantastic. You purchase credibility from your readers, as it were. Oh non,
je peux continuer. Non, c'est OK. Alors, en fait, c'est un personnage qui a un ego qui lui fait avoir des ennuis, mais suffisamment de capacité pour s'en sortir la plupart du temps. Moi, ça m'intéresse pas vraiment de créer des personnages qui soient parfaits et complètement artificiels. Je veux des personnages qui soient d'un côté extraordinaires, mais qui aient également des faiblesses. Et parce que je veux que le lecteur puisse voir ses faiblesses et du coup s'identifier. Et je trouve également que même si on écrit de la fantasy, s'il y a un aspect qui est réaliste, que le personnage est plus réaliste dans sa façon d'être, ça renforce encore l'aspect fantastique du roman.
Ça, c'est un point commun qu'il y a dans vos différents romans, ces personnages justement avec des défauts, avec des failles, notamment dans vos romans, Aurélie, où c'est vraiment une lutte aussi et d'abord contre soi-même, donc face à l'adversité qui arrive de l'extérieur, mais qui permet aux jeunes héros de se trouver.
Oui, il y a vraiment. Ça parle de métamorphose sur le plan physique, bien souvent, parce que je suis sur la métamorphose avec les animaux, mais aussi sur ce que ça révèle de soi et du soi profond, sauvage, et aussi sur une métaphore sur le fait de grandir, de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, et effectivement, je montre toujours des personnages, par contre, qui ont une part d'ombre et qui doivent négocier avec et se construire avec et leurs faiblesses, mais je pense que c'est ce qui est intéressant hein. Maintenant effectivement dans nos romans on est plus sur du manichéisme et on est sur des personnages qui sont plus complexes.
Et puis ça c'est en fait un des ressorts qui produit des rebondissements, parce que vous parliez donc des rebondissements, et ça c'est vraiment le fondement du roman d'aventure. Voilà, c'est il faut qu'il y ait du twist et de la péripétie à chaque détour de chapitre ou de partie, et le fait de ne pas savoir à quoi s'attendre à propos d'un personnage, c'est vraiment très porteur. Je sais que pour ça, moi j'avais été très impressionnée, Adrien, par Notre-Dame des Loups. Qui est une
qui est d'une fourberie sans nom, j'assume.
C'est ça. Et qui est vraiment un tour de force pour ça. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on peut le spoiler.
Pas trop.
C'est un roman qui est court avec un chapitre par personnage.
C'est ça.
Voilà. Et à chaque fois, à la fin, une surprise.
Il y a un twist plus ou moins, qui dans les deux premiers chapitres n'est pas prédictible et qui finit par être prédictible par la suite,
mais parce qui se renouvelle. C'est,
voilà, ouais. Qui se renouvelle, mais de différentes manières, et c'est pas si évident que ça au final. Enfin, c'est Notre-Dame des Loups, c'était un travail de plus sur la forme vraiment que du roman. Je me suis amusé à faire ça justement pour j'ai utilisé jusqu'au bout, j'ai tiré sur la corde de tout ce qui était tous les twists en fait. J'ai essayé de faire des twists à chaque fois qu'il était possible. Tant que ça reste crédible et que ça serve aussi l'histoire, en fait. Et oui, et clairement, Notre-Dame des Loups, pour moi, c'est l'exemple que le twist fait l'aventure, en fait. Parce que ça empêche de vouloir refermer le bouquin, enfin, j'espère, de les échos qu'on m'a donnés. C'était plutôt. J'ai commencé, et puis au bout de 2 heures, j'avais fini, parce que, bon, déjà, c'est petit, hein, c'est un petit bouquin. Et puis, je fais en sorte que le twist de fin de chapitre, ça donne envie d'immédiatement d'enquiller sur le prochain, parce qu'on se dit, ça peut pas finir comme ça.
Twist malin et puis appui sur la littérature de genre, parce que c'est un western et puis c'est un western juste
un western,
et puis c'est une lutte contre les zombies, contre les loups-garous.
Ouais. Oui. Donc c'est ça.
C'est vrai, pourquoi
c'est...
je pense que c'est effectivement, c'est complètement des loups, notre âme des loups d'ailleurs. Ouais, avec le ça, ça évoque pas mal aussi, enfin ça peut résumer le charme particulier de la série des salauds gentilshommes qui, alors elle, puise aux histoires de mafia, aux histoires de pirates et réussit à construire à chaque fois des intrigues de cambriolage ou d'escroquerie qui sont. Qui nous prennent par surprise. C'est ça le. La, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, avec cette description?
Well, yes, that and I think it's fairly obvious that I like to think of it as an honorable theft, but I had a very merry dance with the corpse of Alexandre Dumas in particular. And when I was working on The Lies of Locke Lamora, I was boy, this is going to sound incredibly pretentious. I was going to say that there's an awful lot of stabbing in Dumas. Many people get stabbed in Dumas. Dumas's fine on stabbing. I was going to say I wanted Dickens and Dumas with more stabbing. You can add stabbing to Dickens. You really can't outstab Dumas. He's fine. In addition to all the fantasy works I'd been reading, it was crime novels, it was Elmore Leonard, his sense of rhythm and dialogue in particular, plus just there's never been a more perfect writer to emulate and steal from than Dumas. Forgive me, I'm going to be pillaging his works forever. All right-thinking, good-hearted people do that. When you have a quest fantasy, a wilderness fantasy, when you have characters visiting fantastic landscapes, exploring caves, dungeons, etc., you are exploring external labyrinths. You are exploring things outside of human society, ancient mysteries, darknesses locked away. When you deal with things like the mafia, the Camorra, pirates, assassins, you are dealing with the labyrinths of human society. You are dealing with the secrets and dangers of human beings acting together in groups and acting against one another. And I think that metaphorically, I mean those are the dungeons, the dragons, the quests, the monsters of Locke's world. The urban versions of more classic fantasy trappings.
Alors, c'est assez évident, je pense, quand on lit le roman, que je voulais faire de Locke un voleur honorable, d'une certaine façon. Quand j'ai écrit ces romans, alors ça va être extrêmement prétentieux de me comparer à Dumas, mais j'ai été inspirée par Dumas parce que dans Dumas, on poignarde beaucoup les gens. Hein, autant on peut rajouter des gens qui se poignardent chez Dickens, autant chez Dumas, on peut pas. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de gens qui se poignardent aussi. Et il avait un grand sens du dialogue. Enfin, franchement, à mon avis, tant que je vais écrire, je vais juste copier Dumas. Je suis désolée, c'est du pillage, mais c'est comme ça. Et je pense qu'effectivement, tout ce qui est quand on a en fantasy, quand on a des quêtes, qu'on parcourt des grottes, qu'on explore des continents, qu'on découvre des mystères anciens. Moi, la version pour ça de Locke, c'est plutôt les pirates, la mafia. J'ai voulu explorer un labyrinthe humain et voir comment les gens pouvaient interagir, notamment en groupe. Et ce sont donc la mafia et les comment dire. Tout ça, c'est la version de Locke des donjons, des dragons et des quêtes. C'est une version un peu plus urbaine, mais voilà, c'est sa version à lui.
Dumas, c'est clairement une de vos références, Régis Godin.
Oui,
et puis sur 7 tomes, vous êtes devenu un spécialiste de la tension narrative sur le long terme, une grande tradition du feuilleton.
Des feuilletons, voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est-à-dire que je pense qu'on peut s'interroger en tant que lecteur. Hein. Je vais essayer de parler plus lentement, je sais. Lionel m'a insulté un nombre de fois terrible parce que je parle très vite et que ça met toujours en difficulté les traducteurs. Et donc, effectivement, la question du feuilleton dans l'aventure, c'est très important parce qu'on va avoir une étape, puis une étape, puis une étape, puis une étape. Et ce que disait Scott m'intéresse quand il parle de l'indocilité de ses personnages. Mais je crois que ça fait partie vraiment intégrante, hein, parfois de l'aventure. C'est-à-dire que lire de l'aventure, c'est traverser des paysages. Écrire de l'aventure, c'est ne pas savoir forcément ce qu'il y a devant soi. Et je pense que ça renvoie toujours à la manière d'écrire structurant ou scripturant. C'est-à-dire que les structurants fabriquent une structure qu'ils vont remplir. Hein, les scripturants ont beau fabriquer des structures, ça ne marche jamais. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à écrire exactement ce qui a été prévu. Et les personnages vont prendre une part de liberté. Je pense que chez Dumas, peut-être, chez moi, c'est sûr, je ne fais plus aucun plan parce que rien ne marche en termes de plan et en termes de structure. C'est-à-dire que quand j'écris la suite d'une histoire, je sais quel est le personnage, je sais où il était la dernière fois que je l'ai vu, je sais qu'il y a combien de temps, en gros, ça fait que je ne l'ai pas rencontré. Je sais ce qu'il veut, mais je ne sais pas comment il va faire pour l'obtenir. Et l'idée du roman d'aventure, c'est peut-être, on parlait d'aller à un point A, à un point B tout à l'heure, c'est peut-être d'aller d'un point A à un point B, puis un point C, puis un point D, puis un point E, au fur et à mesure que l'histoire se dévoile, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va se retrouver avec des personnages, que ce soit un seul fil narratif ou plusieurs fils narratifs, eh bien, on ne sait pas forcément où attendre le personnage. On sait en gros quel est son but général, mais il y a une infinité de voies possibles, et il arrive extrêmement fréquemment que, en démarrant en faisant rentrer en scène un personnage, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qui il est. Et une part de l'aventure réside de lecture, vient peut-être de l'aventure de l'auteur qui, à un moment donné, se retrouve sur un fil. Pour ceux qui auraient lu Le Sang des Sept Rois, à un moment donné, donc mon héros arrive sur une plage, l'objet de sa quête lui échappe parce que malheureusement, lui n'a pas de bateau. C'est pas extraordinaire, mais il part en bateau, lui en a pas, il ne peut pas continuer. Quelqu'un arrive dans son dos. Il sait qu'il arrive dans son dos parce qu'il y a un jeu de cache-cache, un peu de course-poursuite dans des montagnes de la Crète. Quand je l'écris, je ne sais pas qui arrive dans son dos. Je ne sais pas et je le découvre quand je l'ai écrit. Et la part de l'aventure, il s'appelle Théode, quand il arrive, je ne sais pas que c'est lui. Alors forcément, derrière, j'ai besoin d'une explication. Il faut que le héros m'explique ce qu'il fait là. Et la part, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils vont, je ne sais pas s'ils vont se battre, hein, je ne sais pas si c'est une espèce de Conan le barbare qui arrive derrière et qui va y avoir un combat homérique, je ne sais pas ce qui va se produire. Et à un moment donné, j'ai besoin à ce moment-là que le personnage qui arrive explique, donne un contre-champ, une autre explication, un autre éclairage sur ce qui se passe. Et ça se produit tellement de fois quand j'écris que maintenant je ne fais même plus de structure. Je sais en gros comment ça devrait se terminer, tout sachant que ce n'est pas comme ça que ça va se finir. Sur Le Sang des Sept Rois, qui est un gros livre qui fait 2800 pages à peu près, dans les derniers 1000 pages, je me dis, il faut que je referme mon histoire. Donc, tous les 100 pages, j'ai refabriqué une fin. Parce que ça dérapait tout le temps, il se passait jamais, jamais, jamais ce que je prévoyais. Et je pense que l'aventure de la lecture se croise et est tout à fait parallèle sur l'aventure de l'écriture. C'est-à-dire que les romans d'aventure, peut-être, hein, je manque de l'ancrage universitaire pour pouvoir en parler, mais peut-être que c'est une écriture de l'inattendu. Peut-être que ce sont des écrivains qui sont eux-mêmes des écrivains de l'inattendu, en quelque sorte.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Donc, vous êtes des aventuriers, hein, vous, les auteurs, et en particulier Régis Godin. À chaque fois, moi, je suis époustouflée par ce qu'il, nous dit de sa technique d'écriture. Je ne sais pas comment il fait. Moi, je serais pétrifiée d'angoisse, mais c'est ce qui fait de vous un aventurier, je crois. Merci à vous. Merci au public. À demain.